Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure de cinéma avec plusieurs films. Et aujourd'hui, ce sont tous des films d'une nationalité différente. Je sais que ça te paraît curieux de l'annoncer comme ça, Manu, mais c'est le cas. Et toi, tu as un film qui nous vient d'Amérique du Sud.
Et plus particulièrement d'Argentine, c'est Los Delincuentes.
Et puis toi, Guillaume, tu fais pas dans la surprise, c'est un film qui vient des États-Unis.
Oui, du fin fond des États-Unis, hein. C'est Roadhouse de Doug Liman.
Et toi, Sophia, c'est un film qui nous vient d'Europe centrale.
Exactement, cap sur la Hongrie avec l'affaire Abeltrem.
Moi, je vais vous parler d'un film, alors j'imagine qu'il est britannique, en tout cas, il est réalisé par un Brésilien, c'est le film de Karim Aynouz, Le jeu de la reine, qui était en compétition à Cannes. Ça nous donnera l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Jude Law, puisqu'il interprète il a un grand rôle dans ce film. Enfin voilà, c'est une vraie composition. Mais nous allons commencer avec une mère qui va tenter de sauver son fils condamné à mort en Indonésie pour avoir mis son nez dans le secteur de l'huile de palme. C'est La promesse verte d'Edouard Bergeon.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois.
Hey yo, t'en permets.
Et de laisser en prison un innocent. Pour le réduire au silence.
Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet, sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années, en 2019, avait rassemblé quasiment 2 millions de personnes dans les salles. Autant dire que c'était un vrai succès. Pour son nouveau film, Edouard Bergeon conserve la relation à la Terre, mais nous emmène en Indonésie, où l'on fait n'importe quoi, en déracinant la forêt pour planter des palmiers qui permettront de produire de l'huile de palme, qui va finir dans la nourriture préparée par l'agro-industrie. Mangeur de Nutella, vous voyez de quoi je parle. Comme on l'entend dans le film, de la part d'un lobbyiste, l'huile de palme, tout le monde en croque.
Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne.
Non, s'il vous plaît, non.
Saïd Ayouf, attaché dans ma salle.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont attaqué un village. Ils m'ont piégé, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme.
Là, on en est partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas.
Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau.
La promesse verte débute donc avec l'exposition d'un problème au travers du voyage de Martin qui s'en va en Indonésie pour documenter sa thèse et rencontrer une femme qui lutte aux côtés des paysans malmenés par les producteurs d'huile de palme. Alors du problème environnemental et social, on va jusqu'au problème judiciaire, donc avec l'arrestation du Français, interprété par Félix Moati. Le passage dans les géoles indonésiennes n'a rien de rassurant, même si Edouard Bergeon ne nous fait pas le coup de Midnight Express, mais on flirte un peu. Intervient alors le problème familial, car la mère Alexandra Lamy veut tout faire pour sauver son fils, et c'est à travers son combat que se dessinent les deux autres problèmes qui sont d'ordre politique et économique. Des problèmes ou des embûches, donc, vous le comprenez, il y en a beaucoup hein, dans ce film qui se veut instructif et documenté sur son sujet, tout en jouant également sur l'action et le thriller judiciaire et politique. Toutefois, ça ne fait pas une œuvre de cinéma, surtout que le scénario est malheureusement peu lisible. Le sort, notamment des paysans du début, est éclipsé par des enjeux plus grands de mise en scène qui veut montrer les relations entre l'Indonésie et le reste du monde, l'impuissance des politiques. Les personnages ont également du mal à pleinement exister. L'attachée d'ambassade, Sofiane Kames, aurait sûrement mérité plus d'ampleur. Voilà, je voulais faire court sur ce film, La promesse verte d'Edouard Bergeon, avec Alexandra Lamy, Félix Moati, en salle depuis le 27 mars. Jacques Gyllenhaal, en ancien combattant de l'UFC, alors c'est pas l'UFC que choisir, l'Union fédérale des consommateurs, mais l'Ultimate Fighting Championship, qui va jouer les videurs sympathiques en Floride. Nous parlons maintenant de Roadhouse.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Avant qu'on commence, t'as une assurance?
Quoi?
T'es bien couvert, ça rembourse les frais dentaires.
Oh.
Il y a un hôpital dans le coin, hein? Il est loin. Quoi? À environ 25 minutes, je dirais. Oh, je viens de te gifler, ça va aller.
Quoi?
Oh, la vache!
Alors comme ça, vous aimez vous battre? Et vous gagnez?
Il n'y a jamais de vrai gagnant.
Dans la grande révision de tout ce qui aura ou a été quelque peu signifiant dans l'histoire plus ou moins récente du cinéma, Hollywood commence désormais à bien tourner en rond et a décidé de s'attaquer au fond de catalogue pour justifier sa crainte de ne pas rencontrer le succès. Alors après avoir épongé la plupart de vrais grands classiques via des suites, des remakes, des reboots, dans l'espoir de surfer économiquement sur le prestige d'une franchise, alors la grande marotte des studios depuis 20 ans, voilà qu'arrivent des reprises de faux films cultes comme Roadhouse, à la base petit film d'action de 89, mettant en scène Patrick Swayze en videur de choc dans un bar mal famé. Alors je dis reprise car en fait, il faut bien s'en rendre compte, il n'est plus véritablement question de remake à proprement parler, voire de reboot, terme qui sous-entendrait que l'on pourrait en tirer des suites ad nauseam, mais d'une sorte de réactualisation de film en fait. Il faut bien le dire, mineur. Alors à la suite de la vision de ce Roadhouse version 2024, on peut même se poser la question suivante, est-ce que ce n'est pas en définitive plus intéressant, voire pertinent, de voir des reprises de films mineurs plutôt que de longs métrages bien plus costauds?
Ce type cache un couteau sous sa chemise. Tu recules d'un pas et tu lui mets immédiatement une droite. Tu vas y arriver.
Parle-moi de ce videur.
Il est tout cool, tout gentil. On croirait Mère Teresa ou je sais pas qui. Puis d'un seul coup, il te met une vraie raclée. C'est un gars intéressant, au final.
La réponse est quand même difficile à tirer de ce nouveau Roadhouse, car, et ce n'est pas la moindre de ses qualités, la version de 2024 n'a pas à rougir de la comparaison avec l'original. Bon, l'inverse aurait été très alarmant, vu le niveau sympathique, mais très loin d'être transcendant du premier. Mais nous avons déjà vu des titres s'échouer lamentablement de plus haut. Alors, lorsqu'une petite surprise, certes indolore et sans aucune ambition, pointe le bout de son nez, on se dit qu'au moins celui qui n'est pas floué dans l'histoire, c'est bien le spectateur. Alors, il y retrouve tout ce qui fait, on peut dire ça comme ça, le sel de la version de 89, à savoir les pérégrinations un peu ubuesques d'un videur pas comme les autres, qui va devoir composer pour le bien-être d'un bar qu'il a engagé à cet effet, avec de sombres criminels pas beaux et voulant dissimuler un trafic. Alors cassage de bras, tatane en tout genre, humour, un zeste de romance et quelques cascades, et l'affaire est pliée. Vous voilà devant une production Joel Silver qui délivre aimablement tout ce pour quoi vous avez signé. Même si on a connu le producteur de L'Arme Fatale ou de Predator bien plus en forme lui aussi, on est heureux de le voir au générique de cette version 2024 et de voir que oui, c'est toujours aussi bête et plutôt généreux. Alors là où la version 2024 fait mouche, c'est sur la narration de ces deux premiers actes et son humour. Contrairement aux productions Marvel, les éléments comiques sont ici particulièrement bien intégrés puisqu'ils servent de caractérisation narrative aux héros. Alors il est vraiment drôle de le voir amener une bande de malfrats à l'hôpital après leur avoir cassé toutes les dents et d'accorder de l'importance à la lecture pour découvrir l'endroit dans lequel il vit entre deux vertèbres déplacées. La vraie fausse ingéniosité d'Elwood Dalton fait que le videur est attachant et immédiatement sympathique, de même que le principal antagoniste joué par Conor McGregor, qui régale dans sa propension à vouloir tout casser en ne quittant jamais son sourire sadique. Bref, tout le monde s'amuse, ça se voit, et c'est plutôt communicatif.
Brand fait tout pour que le Roadhouse ferme. Il veut construire une saloperie d'hôtel pour des gros cons de riches. Il faut que je vous avertisse. Ici, les gens règlent les conflits à leur manière.
C'est dur de me mettre en colère, mais quand je le suis, j'ai aucune retenue. Les gens ont l'air un peu agressifs dans le coin.
Et lui, c'est un de vos amis ?
Non, je lui ai juste pété le bras.
Le gros point faible vient surtout de la mise en scène des bastons les plus importantes du film. Si Doug Liman n'a aucun problème à faire aussi bien que l'inconnu Roddy Harrington, il déçoit néanmoins lorsqu'il s'agit de mettre en scène des patates homériques attendues entre Jake Gyllenhaal et le bovin Conor McGregor. Alors le choix d'utiliser des effets spéciaux pour nous plonger au plus près des corps interroge sur le véritable parti pris artistique, car on se demande si ça ne serait pas une manière d'éviter que Gyllenhaal se prenne de véritables coups de la part du vrai champion de MMA. Alors quoi qu'il en soit, il est dommage de voir littéralement l'artifice des combats lorsqu'on a d'un côté un véritable champion et de l'autre un acteur qui s'est taillé le physique pour paraître crédible. Alors en dehors de ça et d'un dernier tir un petit peu expédié, et même si vous aurez tout oublié dans une semaine, Roadhouse est un divertissement assez fréquentable en attendant un vrai poids lourd qui lui va tout casser. Qui a dit Furiosa en mai?
Et oui, on a appris ça il y a peu. Ça, c'est le film qui va faire l'ouverture du Festival de Cannes et qui sera en avant-première dans beaucoup de salles en France. En tout cas, ce Roadhouse avec donc l'acteur...
Conor McGregor. Et d'ailleurs, moi, j'avais lu une critique où il parlait simplement de McGregor et je croyais que c'était Ewan. Et puis, j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, tiens, il a vachement changé, en fait.
C'est pas le même physique.
C'est pas du tout pareil. Ouais, ouais.
Effectivement, il y a Jack Gyllenhaal qui est absolument bodybuildé, ça fait très, très étrange. En tout cas, c'est à voir, et non pas dans les salles, mais sur Prime Video. Deux modestes employés de banque de Buenos Aires font un casse. Nous parlons de Los Delincuentes.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
pas très compliqué à comprendre.
Tout salarié pressuré par la routine a un jour rêvé de tout quitter, de changer de vie, de s'exiler loin de la ville pour se sentir en harmonie avec la nature sans contrainte ni horaire. En somme, d'aspirer à une liberté totale, loin de tout asservissement à une doctrine aliénante pour se laisser aller au loisir et à l'oisiveté. Alors comment atteindre ce but ? Alors, c'est en partant de cette réflexion simple et universelle que Rodrigo Moreno a pensé Los Delincuentes, un conte hédoniste et anarchiste matérialisant une utopie possible. À travers la quête de deux anti-héros, le système capitaliste est pointé du doigt sans les gros sabots coutumiers de la fiction de gauche, avec une douceur presque irréelle à la recherche illusoire, peut-être, d'un bien-être possible de l'individu. Alors, il était une fois, pour reprendre le modèle du conte, deux modestes employés d'une banque de Buenos Aires, Morane et Romane. C'est fait exprès, les anagrammes. D'ailleurs, tous les personnages ont des noms d'anagrammes. Enfin, voilà, c'est piégé donc par ces deux personnages, piégés par les petites habitudes d'une existence morne et dépassionnée. Alors, ils ne sont pas malheureux, mais subissent cette pression persistante qui se glisse insidieusement dans le quotidien des salariés jusqu'à leur retraite. Alors, un jour, Morane décide de bouleverser le cours des choses en passant de l'autre côté de la barrière. Il vole une somme équivalente à une vie de salaire, mais ni plus ni moins. Juste assez pour se la couler douce. Évidemment, ce n'est pas sans risque. Plutôt que de fuir les autorités, Morane se livre volontairement à la police afin de purger une peine de prison de 3 ans et demi, demandant à son ami de cacher l'argent dans un lieu sûr pendant tout ce temps. Alors, désormais, délinquants, leurs destins sont liés, ainsi que leurs rencontres picaresques, au gré d'un scénario sibyllin fait de hasard et de coïncidence.
Si, como.
Los Delincuentes débute comme une satire du monde du travail. Le réalisateur décrit la banque et les pantins qui s'y agitent comme un lieu sinistre, une administration vieillotte, à peine plus épanouissante que la prison dans laquelle Morane va purger sa peine. Alors, ces vestiges d'une civilisation dépassée, symbole de l'enfermement, sont représentés par des décors grisâtres figés dans le temps. Le même acteur, d'ailleurs, interprète le mafieux local de la prison et le directeur de la banque, les deux faces d'un personnage identique coincé dans des valeurs archaïques. Rodrigo Moreno offre un contraste entre sa manière de filmer les paysages sublimes de Cordoba et la morosité de l'environnement urbain. L'arrivée de Romane, d'ailleurs, à la rivière pour cacher le butin est une invitation à l'oisiveté dans une sorte d'Éden, de paradis perdu solaire. Alors, peu à l'aise dans cet environnement idyllique au départ, Romane, il commence donc par réfréner cette invitation auprès du groupe de néo-ruraux. Réflexe spontané de citadin déshabitué du geste généreux. Alors il finit par céder, par boire du vin, nager, jouer à des jeux, voilà. Et aussi, pourquoi pas tomber amoureux. La même rengaine pour Morane, leur trajectoire va être un peu identique, elle est similaire, mais décalée dans le temps, dans un récit scindé en deux parties.
Oh, no. Je veux avoir une vie modeste, je ne veux pas travailler plus, Romane. Je veux faire le même.
La cohérence du film se situe à tous les niveaux de fabrication, créant une osmose émotionnelle sidérante. Elle s'affiche par la transparence, la mise à nu des intentions de son auteur. La forme nonchalante épouse la structure flottante de la narration, à la fois réfléchie et spontanée. La mise en scène crée un sentiment d'euphorie, stimulant tout un imaginaire. Alors, sa mollesse de surface, un montage relâché, des plans fixes assez longs, une lumière naturelle, a du mal à dissimuler son ampleur romanesque, son ambition secrète derrière la modestie de l'entreprise. Alors, malgré, il faut quand même le dire pour les spectateurs, le film dure 3h15. Asséné qu'un film peut être aussi un documentaire sur son tournage, s'applique en général à des œuvres complexes et compliquées, comme Apocalypse Now ou Sorcerer, pour ne citer que deux exemples frappants, derrière lesquels on ressent toute la folie et la souffrance d'une équipe de tournage. Or, dans Los Delincuentes, le contraire se produit. La générosité communicative du film laisse supposer un tournage serein, une communion entre tous les acteurs, au sens large du projet, rejoint une forme d'utopie héritée des années 70. Moi, j'ai pensé à des films comme Les naufragés de l'île de la Tortue de Jacques Rosier. Rodrigo Moreno assume la naïveté de son propos ainsi qu'un émerveillement quasi enfantin devant un destin atypique de Morane et Ramon, deux inoubliables personnages de fiction qui réinventent une idée de cinéma d'aventure libre et solaire. Vraiment bon, voilà, c'est un très bon film. Et ce malgré film... sa durée quand même, qui peut paraître excessive, et c'est ce qui m'avait fait peur au départ. Et surtout, que le fait que moi j'avais l'impression de voir, par rapport au titre, une énième fiction sociale, une sorte de drame, et comme il y en a beaucoup en fait en Amérique du Sud en ce moment, puis c'est complètement autre chose en fait.
Et donc, c'est à voir en salle depuis le 27 mars, Los Delincuentes. Catherine Parr, épouse de Barbe Bleue, tente de déjouer les pièges qu'on lui tend. Nous parlons du jeu de la reine.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Nous sommes fiers de vous. Vous avez été une excellente régente.
La reine !
J'aurais aimé faire davantage.
J'en suis certain.
Le jeu de la reine, film du Brésilien Karim Aynouz, était en compétition à Cannes et c'est là-bas que je l'ai vu. Alors si je dis cela, c'est que ça a tout de même son importance parce que c'est pas la même chose de voir un film pendant le festival de Cannes que dans une salle ou une projection presse classique, car durant tout le festival de Concause, eh bien de films des bons et des mauvais, et beaucoup de mes interlocuteurs eh bien, avaient rangé le jeu de la reine dans ceux dont on pouvait se dispenser, ce que je trouvais d'ailleurs injuste. Et autre phénomène, c'était le deuxième film en costume après celui d'ouverture de Mai Wen qui nous emmenait donc aussi du côté de la royauté. Et n'ayant pas apprécié celui de la réalisatrice française, eh bien je me retrouvais davantage dans le propos du jeu de la reine qui pourrait apparaître comme un film féministe. Et à le comparer avec Jeanne du Barry, qui est l'histoire d'une femme qui cherche l'ascension sociale, eh bien le personnage du jeu de la reine, Catherine Parr, veut elle ni plus ni moins que de renverser la royauté ou en tout cas faire souffler le vent de la réforme, une autre ambition.
Faites bien attention de toujours garder une certaine retenue.
La révolution est en marche !
Vos affinités avec les radicaux pourraient menacer la stabilité du royaume.
J'ai la conscience tranquille. J'ai l'intime conviction que j'ai été choisie par Dieu pour l'amener à penser autrement.
Belle intelligence.
Mon père est-il souvent en colère contre vous ?
Êtes-vous une menteuse ?
Je ne sais jamais ce qu'il va faire. Je ne sais jamais ce qu'il a en tête.
Le jeu de la reine est l'adaptation d'un livre de l'anglaise Elizabeth Fairmantle, Firebrand, qui nous renvoie dans l'Angleterre donc du XVIe siècle au crépuscule du règne d'Henri VIII, connu sous le nom de Barbe Bleue, un roi qui a répudié ou fait exécuter une partie de ses épouses. Autant dire que la situation pour la sixième, interprétée par Alicia Vikander, est loin d'être idéale. L'homme qu'elle a en face d'elle est bedonnant, flatulent, paranoïaque, imprévisible et violent. Il est aussi ignoble et monstrueux que sa femme est élégante, raffinée, intelligente et vive.
Vous ne voulez pas me faire souffrir ?
Jamais.
Il veut la preuve qu'elle l'a trahi d'une manière ou d'une autre. Vous êtes un esprit vif. Cela vous a mené trop loin. Cela devient extrêmement dangereux. Plus de mensonges quittent.
À quoi peut-il me servir d'être reine ? Si je n'ai pas le courage de mes convictions.
Le film tire facilement ce fil d'une femme prête à subir l'exécution pour ses actes réels ou supposés, hein, d'ailleurs, car cette reine fricote avec les révolutionnaires, jouant le double jeu, elle insuffle au récit une part de suspense, un thriller entre les discussions au château, les rendez-vous secrets dans la forêt ou les confidences dans la chambre à coucher. Le film nous place tout de suite dans le bain. Hein. Il était une fois un roi malade et colérique qui régnait dans un royaume, sur un royaume corrompu, entend-on au début pour pousser le récit vers le conte. Ce roi colérique est d'abord à la guerre, hein, laissant toute latitude à sa femme, la régente, de mener sa vie entre politique et formation de l'esprit de la future Elisabeth I. Puis ce roi revient à cause d'un ulcère à la jambe. Puis ce roi eh bien, se meurt et inquiète son entourage. La reine va devoir la jouer très fine pour faire advenir la liberté et le droit pour son peuple de pratiquer une religion ouverte et tolérante. La partition de Jude Law en monarque bouffi excessif est remarquable, à la limite du cabotinage diront certains. À la pointe de l'acteur studio diront d'autres, car l'acteur britannique a avoué que pour être encore plus repoussant, il s'était aspergé d'un parfum de pourriture. Voilà, le film vaut davantage pour ce qu'il expose que pour ses qualités formelle. Il n'y a pas grand chose à retenir finalement de la mise en scène, si ce n'est une lumière volontiers glauque, des gros plans sur les visages. Et n'ayant vu aucun film de réalisateur brésilien, je suis bien en peine de savoir comment il s'est comporté sur celui-ci vraiment. Mais ce jeu de la reine se regarde avec plaisir, tant les cadres, les décors, les costumes sont soignés et le propos contemporain. Autant dire aussi, je vais l'avouer, hein, que je l'ai vu il y a très longtemps, et donc, mais il m'en reste quand même un souvenir assez présent. Voilà, ce film, le jeu de la reine en salle depuis le 27 mars, nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Jude Law, donc qui vraiment est exceptionnel hein, dans ce film et presque un peu à contre-emploi. Premier extrait de ce blind test.
On ne peut pas rester ici. Les idiots à qui j'ai affaire, tu ne peux pas imaginer.
Ils croient que j'ai tué le directeur de la mission.
Qu'est-ce qui leur fait croire ?
Ils ont trouvé un de mes cils.
Où ?
Dans un couloir.
Ah, eh bien ça pourrait être pire. Ils auraient pu le trouver dans ton œil.
Ils ont affiché ma photo sur tous les écrans de leur réseau informatique. Je ne peux pas me retourner sans voir mon visage. Ils vont me reconnaître.
Ils ne vont pas te reconnaître.
Je sais qu'ils vont me reconnaître.
Moi, je ne te reconnais pas du tout.
C'est trouvé.
C'est Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol.
Oui, sorti en 97 avec Ethan Hawke et Uma Thurman. Gattaca est un centre d'études et de recherche spatiale pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat Andy idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. 467 000 entrées en France pour ce film. Deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Jude Law.
Qui vous envoie ? Ça ne vous regarde pas. Nous sommes là, c'est tout ce qui compte. Mon Dieu. Qu'est-ce qui m'a pris ? Je ne voulais pas dire ça.
C'est ton personnage qui parle. C'est assez schizophrénique comme sensation. Tu vas t'habituer. Certaines choses doivent être dites pour faire avancer l'intrigue et pour camper les personnages. Et ces choses-là se disent que tu le veuilles ou pas. Laisse faire. Ne résiste pas.
Mais toi, tu peux dire ça devant cet homme ?
Regarde-le.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'est mis en boucle. Il n'en sortira pas tant que tu n'auras pas prononcé la phrase qui convient.
Bon, il y avait quand même des indices, mais c'est trouvé.
C'est Existence de David Cronenberg.
Eh oui, film de 99 avec Jennifer Jason Leigh. Dans un avenir proche, une créatrice de génie a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connecte directement au système nerveux. Il s'agit d'Existence. 621 000 entrées en France. Troisième extrait de ce blind test.
La vraie ironie, c'est que je fais pas semblant. Pas semblant d'être un autre, alors que toi.
Mortel.
J'ai été sincère. Je t'ai ouvert mon cœur. Sans la moindre méfiance.
Mortel.
Mais toi, si tu veux savoir, il y a quelque chose, je le vois bien. Le soir où on a fait la partie d'échecs, tu vas dire que ça crevait pas les yeux.
Quoi, quel soir ?
Bah voyons, non, ce serait trop dangereux, bien sûr, que tu le reconnaisses. Oh non, 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 on est frères. Et tout ce que tu trouves, c'est ce truc sordide avec Marge. Il a fallu que tu la baisses sur le bateau, alors qu'on entendait tout. C'était une torture pour tout le monde. Il faut que t'écoutes que ta queue quand on a envie. Et là, tu vas te marier. Non, j'en reviens pas, je m'excuse.
Alors, c'est trouvé.
Le talentueux monsieur Ripley.
Et oui, film américain réalisé par Anthony Minghella, sorti en 99 avec Matt Damon. Remake de Plein Soleil de René Clément. On va en rester là. Voilà, 516 000 entrées en France pour ce film. Quatrième extrait du blind test consacré à la filmographie de Jude Law.
Au nom de quoi me regardez-vous avec un tel désarroi ?
Ah mais c'est que je me fais un sang d'encre.
L'on vous a purgé de toute vitalité. Le mariage, c'est... La fin de tout, sachez-le.
C'est le commencement, à mes yeux.
L'apocalypse.
La renaissance.
Restriction.
Structure.
Rendre des comptes à une femme. Faire partie d'un couple. Une vie de bonheur conjugal. La possibilité de fonder une famille. Qui aurait l'idée de mourir seul ?
Donc nous faisons la foire ce soir comme au bon vieux temps. Vous vous casez, fonder une famille, tandis que je... mourrai seul.
C'est assez bien résumé. Peut-être est-il préférable de mourir seul plutôt que... de vivre dans un éternel purgatoire.
Alors, c'est trouvé facile.
C'était Sherlock Holmes, Jeu d'ombre.
Oui, de Guy Ritchie, film de 2011. C'est le deuxième volet de la série Sherlock Holmes. Et Jude Law interprète Watson. 2,3 millions d'entrées en France, tout de même, pour ce film. Dernier extrait de ce blind test.
Où allons-nous ?
Par là, maintenant.
Serais-tu dans le pétrin ? As-tu dû fuir quelqu'un ?
Maman m'a dit de fuir.
Pourquoi t'a-t-elle dit ça ?
Je crois que c'est... parce qu'Henri ne m'aimait pas.
Pourquoi ça ?
Martin est arrivé chez nous.
Qui est-ce ?
Martin est le vrai fils de maman et d'Henri. Dès que j'aurai trouvé la fée bleue, je pourrai rentrer chez moi. Maman aimera un vrai petit garçon. Et la fée bleue va faire de moi un vrai petit garçon.
La fée bleue est Mecha ou Orga ? Homme ou femme ?
Femme.
Femme. Je connais les femmes.
C'est trouvé.
Et oui, c'est Haï de Steven Spielberg.
Oui, film de 2001 dans un futur lointain. Le professeur Obi veut créer le premier androïde sensible, un enfant capable de développer un vaste répertoire d'émotions et de souvenirs. Et David, un robot de 11 ans, va entamer un périlleux voyage à la recherche de son identité et de sa part secrète d'humanité. Et dans ce film, Jude Law interprète Gigolo Joe, dont le rôle est de simuler les relations amoureuses et sexuelles avec des adultes. 1,5 million d'entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test autour de la filmographie de Jude Law.
This is Cinerama.
Un jeune lycéen déclenche un scandale médiatique par le mensonge dans la Hongrie de Viktor Orban. C'est l'affaire Abeltrem.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Un film à petit budget s'accommode bien d'un style épuré, simple de pseudo-réalisme. Dans ce film hongrois, le réalisateur Gábor Reis se réclame du style esthétique des Danois du Dogme 95, ce manifeste rédigé par Thomas Vinterberg et Lars von Trier, visant à combattre le film illusionniste par un ensemble précis de règles connues sous le nom de vœux de chasteté, et qui plaide donc pour une sorte de cinéma vérité, tourné avec décors et lumières naturelles, sons en prise directe, sans musique additionnelle, etc. Gábor Reis propose ainsi, avec l'affaire Abel Trem, un film plus sobre que chaste, qui gravite autour de l'éducation et s'intéresse plus précisément à un point d'intersection entre éducation, politique et médias. Reis use d'une certaine liberté formelle dans le dispositif de ce film où l'on suit quatre protagonistes principaux dans une Hongrie contemporaine. L'élève aspirant bachelier qui est Abel Trem, son père architecte obsédé par la réussite scolaire, le prof d'histoire du lycée, Jakab, et une jeune journaliste, Erika. Le métrage se concentre sur 10 jours consécutifs, articulés en chapitres avec intertitres en surimpression qui se développent de manière quasi linéaire chronologiquement. Ainsi, il y a par exemple la toute première journée, celle du lundi, que l'on revit 3 fois à travers 3 différents chapitres avec un personnage, puis un autre, puis un dernier. Abel, son père, son prof. Dès lors, une des thématiques principales du film est mise en évidence lorsqu'on remarque les légères distorsions qui affectent la restitution d'un même événement, d'une même conversation, en fonction des différents points de vue. Une autre journée est particulièrement développée également, celle du mardi, l'épreuve d'oral du bac. Abel se plante. Il porte ce jour-là à sa veste de costard une cocarde, petit insigne nationaliste, pins emblématique que toute la Hongrie arbore usuellement le 15 mars pour la fête nationale. Mais qui a une histoire, une connotation également. Pour échapper à la honte de son échec, entre autres raisons, Abel va prétendre mollement avoir été recalé à cause de cette cocarde. C'est ici que se niche donc le nœud de l'intrigue, le point de départ de la déflagration, et c'est donc encore une journée que l'on vit en longueur à travers plusieurs prismes. Alors qu'il y a d'autres journées, hein, celle du dimanche par exemple, titrée simplement « Dimanche, il ne s'est rien passé », un plan de quelques secondes donne à voir la compagne du prof d'histoire grattant quelques notes sur un instrument à cordes. Il trouve son terme rapidement, une coupure nette pour faire place au lundi, changement de décor et de focalisation. On est en salle de réunion avec la journaliste Erika. Seules quelques notes de musique planent encore en off pour assurer la transition. Sobre mais puissante, c'est le type de construction au montage qui non seulement apporte de la fraîcheur au film, mais permettent de surcroît de donner sens et force aux corrélations entre les différents personnages. La mélancolie qui émane de l'instrument de la femme du prof est-elle audible aux oreilles de la journaliste qui en est partiellement responsable, elle qui construit son ascension, sa carrière, sur le dos de cette famille ? C'est bel et bien cette journaliste Erika qui crée l'histoire, le scoop ou la story, le terme est utilisé ainsi, retentissant d'anglicisme au milieu des échanges en hongrois. Elle crée l'histoire parce qu'elle veut qu'il y en ait une, quitte à flirter avec la fake news. On comprend qu'elle articule intuitivement les informations dont elle dispose pour leur donner du sens. Elle crée un lien de cause à effet, là où il n'y en avait pas forcément, et l'absence de certaines informations cruciales, éludées sciemment ou non, chaque spectateur pourra se faire sa propre idée, active les opinions publiques. Biais politiques et idéologiques viennent alimenter entre les lignes le récit de cet événement transformé en affaire. Une grande affaire qui va donc tous les dépasser largement, sans qu'il n'y ait vraiment de construction binaire avec protagoniste et antagoniste. Les différents points de vue offrent vraiment la possibilité de s'attacher à chacun d'entre eux et comprendre leur motivation et positionnement, voir qu'ils sont tous victimes en fait de la situation. Des personnages nuancés, mais bien représentatifs de la nation hongroise, une société bipolarisée, parfaitement incarnée par l'opposition entre le père d'Abel, à l'idéologie de droite dans la lignée du Premier ministre Orban, et le prof d'histoire, traité de gauchiste. L'injustice est vraiment impunie dans ce pays, assène-t-il au père d'Abel. En s'écartant tout de même bien du style du dogme, par l'ajout de musique, des plans moins pseudo-amateurs, Gábor Reis parvient à réaliser un film envoûtant qui fait écho à la bombe de Vinterberg, Festen, premier film estampillé dogme, en questionnant le rapport de chacun à la justice et à la vérité, particulièrement lorsqu'elle est muselée par des systèmes d'oppression, par le patriarche et la honte chez Vinterberg, et ici, par son double pendant chez Reis, les médias et les formes de pouvoir autocratique.
Le film hongrois à l'affaire Abel Trem est en salle depuis le 27 mars.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, nous aurons chacun un film, et toi Guillaume, ce sera un remake encore.
Eh oui, le salaire de la peur, version 2024, on va voir ce que ça vaut.
Et toi, Sophia, c'est un film assez attendu.
Oui, réalisé par un des frères Cohen, Drive Away Dolls.
Et puis avec toi, on ira dans le pays de l'enfance.
Le pays de l'enfance, ouais, vu que c'est les vacances, ce sera Kung Fu Panda 4.
À la semaine prochaine.